à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro, en direct de Washington DC. Bienvenue à cette édition du jeudi 1er mars 2018. À la une ce soir, tension à Gao au Mali suite à des manifestations de jeunes. Au Togo, conférence de presse de 14 partis de l'opposition sur le dialogue politique en cours. Au Niger, le gouvernement persiste et défend sa loi de finances malgré des manifestations de la société civile. Et en RDC, un groupe d'experts estime que l'ONU devrait suspendre son soutien au processus électoral. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Vive tension à Gao, dans le nord du Mali. Les jeunes sont depuis hier dans la rue pour manifester contre la communauté arabe qu'ils accusent d'avoir tué un élément de la garde nationale natif de Gao. Des coups de feu sont entendus dans la ville et des blessés admis à l'hôpital. La ville est totalement paralysée. Le commerce, les banques, les écoles sont restées fermées. Rien ne va entre les deux communautés arabes et Songhai. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Tout a commencé hier soir après que Abdou Touré, un élément de la garde nationale, soit abattu par balle par des inconnus au quartier Château. Les jeunes très remontés ont brûlé des pneus en signe de protestation sur les artères principales de la ville. 4 blessés par balle ont été évacués sur l'hôpital. Les leaders des jeunes ne sont parvenus très difficilement à faire entrer les jeunes à la maison. Le rendez-vous est donné pour ce matin à la place de l'Indépendance. Et là, ça commence. Les jeunes prennent la direction d'Aljana Banja à la place Jigenshor. Quelques instants après, on entend des coups de feu. 5 personnes sont touchées par balles et évacuées aussi à l'hôpital. Les groupes armés d'autodéfense arrêtent des hommes armés à bord de 2 véhicules et les conduisent à la gendarmerie. La ville est paralysée, le commerce, les banques, les écoles et les services publics sont restés fermés toute la journée. Il faut rappeler que tout est parti après que le corps d'un des 2 Arabes enlevés dans la commune de Traboui soit retrouvée sur les berges du fleuve Niger, dans le village de Barissadi, commune de Sony Alibert. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
4 casque-bœufs bangladais ont été tués et 4 autres grièvement blessés hier dans le centre du Mali, dans une attaque à l'engin explosif artisanal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement l'attentat. Mardi, 6 militaires et un garde forestier sont morts dans 2 attaques attribuées à des djihadistes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé une contribution de la Turquie de 5 millions de dollars pour financer la force conjointe du G5 Sahel. La Turquie fait partie des pays qui comprennent le plus les dangers auxquels sont confrontés les pays du Sahel, a-t-il expliqué lors d'une visite hier en Mauritanie. Le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad ont mis sur pied la force de quelques 5000 soldats pour lutter contre les groupes djihadistes. Le président Erdogan s'est rendu ensuite au Sénégal. Au Niger, après des mois de manifestations contre la loi de finances 2018, le ministre des Finances a tranché. Le gouvernement ne cédera pas. Anastasie Tudiech.
Les protestataires reprochent au gouvernement d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts qui vont presser le peuple et surtout d'avoir accordé des cadeaux fiscaux d'une 20aine de milliards de francs CFA aux compagnies de téléphonie. Ceux qui sont aujourd'hui dans la rue considèrent que payer l'impôt est illégitime et nous nous battrons, a averti le ministre nigérien des Finances, relevant que contrairement à ce qu'avancent ses détracteurs, le budget 2018 ne contient, je cite, pratiquement aucune mesure affectant les campagnes, fin de citation, où vivent 80% des 20 millions de Nigériens, en majorité pauvres. Le représentant de l'Union européenne a félicité et encouragé le gouvernement nigérien, jugeant que les nouvelles mesures n'ont rien d'excessif. Mi-janvier, le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, proche du président Mahamadou Issoufou, avait estimé que certaines mesures répondent à une directive de 1998 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, déjà en vigueur dans les 8 États membres.
Au Togo, quelques jours après la suspension du dialogue politique, la coalition des 14 partis de l'opposition a donné une conférence de presse à Lomé et revient sur la pierre d'achoppement des discussions avec le parti au pouvoir. À Lomé, la correspondance de Kaye Lawson.
C'est le retour à la constitution de 1992 dans sa version originelle qui divise les deux parties. La coalition des 14 partis de l'opposition a clarifié sa position sur une éventuelle candidature de Fornia Singbe en 2020. La coalition dit qu'elle n'accepterait en aucun cas un accord qui puisse lui permettre de briguer un quatrième mandat. C'est ce qui bloque les échanges, estime-t-elle. Suspendue pour 2 semaines, le dialogue politique ne peut être repris que si les autres mesures d'apaisement sont effectivement mises en œuvre, fait noter la coalition. Au rang de ces mesures, la coalition cite la levée du siège à Bafilo, à Sokoné et à Mango dans le nord du pays, l'élaboration d'une procédure pour le retour des exilés et déplacés et l'arrêt des persécutions et poursuites contre les militants et dirigeants de l'opposition. La coalition dit tenir fermement ce dernier point qui pourra permettre à tous les responsables de l'opposition de participer au dialogue en toute sécurité. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, une conférence des pays donateurs se tiendra le 13 avril à Genève avec l'objectif de lever 1,37 milliard d'euros. Des fonds visant à faire face aux multiples crises humanitaires, expliquent les Nations Unies. La somme que l'ONU espère lever représente le double des fonds demandés en 2017. RDC toujours, des experts de l'université de New York recommandent à la mission des Nations Unies au Congo, la MINUSCO, de suspendre son soutien au processus électoral si les conditions pour des élections crédibles ne sont pas réunies. Le Conseil de sécurité devrait faire de la tenue d'élections crédibles la principale priorité de la MINUSCO au cours de la prochaine année, estime-t-il. Zimbabwe, le président en exercice du principal parti d'opposition, Nelson Chamisa, a été investi aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle prévue cette année, la fin du règne de Mugabe. Tunisie, plusieurs dizaines de magistrats et d'avocats ont manifesté devant un tribunal près de Tunis. Ils protestaient contre ce qu'ils ont qualifié de pression policière sur la justice. Des policiers en uniforme et en civil s'étaient aussi rassemblés devant le tribunal pour soutenir 5 de leurs confrères interrogés par le parquet après avoir été accusés de torture par un prévenu. Plusieurs organisations en Tunisie les ont accusés de porter atteinte à la bonne marche de la justice.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des milliers de Sud-Coréens ont manifesté à Séoul contre le rapprochement du président Moon Jae-in à la Corée du Nord et pour soutenir l'ex-présidente Park Geun-hye, condamnée à 30 ans de prison pour corruption. Nathalie Barge.
Les adversaires du président sud-coréen ont dénoncé sa politique d'engagement pour favoriser un dialogue et une coopération accrue avec le Nord. Le président Moon se rend complice dans les crimes contre l'humanité en approuvant les armes nucléaires de Kim Jong-un, a déclaré Kim Suk-woo, ancien vice-président de l'unification à Séoul. L'année dernière, la Corée du Nord a mené de nombreux essais nucléaires et des tirs de missiles balistiques capables d'atteindre les États-Unis. Les dirigeants de Pyongyang sont également accusés de crimes contre l'humanité pour violation systématique des droits humains. Un rapport des Nations Unies de 2014 documente un réseau de prisons politiques en Corée du Nord et des cas de meurtres, tortures et viols parrainés par l'État.
En Syrie, les forces gouvernementales et russes ont maintenu la pression militaire sur l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale. Leur trêve unilatérale n'a donc pas eu les conséquences humanitaires escomptées sur le terrain. Plus de 40 camions chargés d'aide n'ont pas pu pénétrer dans l'enclave assiégée depuis 2013, suscitant de nouveaux appels en faveur d'un cessez-le-feu conformément à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU votée samedi et non suivie des faits. L'ONU espère pouvoir livrer d'ici quelques jours. Nous avons été informés aujourd'hui que nous pourrions recevoir une lettre d'autorisation du gouvernement pour entrer dans Douma, explique l'ONU. Irak, le Parlement a voté une résolution demandant au gouvernement d'établir un calendrier de retrait des forces étrangères stationnées dans le pays en référence à celle de la coalition internationale anti-djihadiste. Mise sur pied en 2014 par les États-Unis pour déloger le groupe État islamique des territoires qu'il contrôlait en Irak et en Syrie, cette coalition rassemble 74 pays dont seule une minorité a déployé des soldats au sol. Et puis, les États-Unis saluent la déclaration finale du processus de Kaboul sur la paix en Afghanistan, mais maintiendront la pression sur les talibans, tant que les pourparlers n'auront pas abouti, a prévenu aujourd'hui l'ambassadeur américain à Kaboul. Nous réitérons notre appel aux talibans à entamer des pourparlers directs avec le gouvernement afghan sans condition préalable, a déclaré l'ambassadeur John Bass suite à la conférence qui a réuni mercredi les représentants d'une vingtaine de pays, dont les États-Unis et l'ONU. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur la Minute Écho.
5 pays africains sont classés dans les 10 les plus touchés par la criminalité économique dans le monde. D'après le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, l'Afrique du Sud bat le record, le Kenya occupe le deuxième rang mondial, l'Ouganda quatrième, la Zambie cinquième et la Tanzanie ferment le top 10 mondial. Le détournement d'actifs est le crime économique le plus commis à l'échelle mondiale, devant la cybercriminalité et les fraudes des consommateurs. L'Observatoire pour l'émergence en Afrique indique que 37 pays africains ont lancé un plan visant à se hisser au rang d'émergents. Toutefois, ce think tank admet qu'il n'existe pas de conceptualisation claire et adaptée à l'Afrique de la notion d'émergence. Selon ses experts, les paramètres macroéconomiques, le flou qui entoure la répartition du produit intérieur brut, la répartition de la dette ont leurs limites. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et les États-Unis ont atteint plus de 5 milliards de dollars en 2017, soit en hausse de 13%. Les importations en provenance des États-Unis comprennent essentiellement les fèves de soja et les avions civils. Les exportations égyptiennes sont essentiellement les vêtements prêts à porter, le textile, les engrais, le fer, l'acier, les légumes, les fruits et les hydrocarbures. L'Égypte est considérée comme la principale portée d'entrée des produits américains vers l'Afrique et le Moyen-Orient.
Voilà pour la Minute Éco avec Eric Manirakiza. Un feu sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgan.
Début ce jeudi à Birmingham des championnats du monde d'athlétisme en salle.
Et oui Morgan, 28 pays africains sont représentés dans la ville britannique et le continent pourra compter sur quelques valeurs pour des chances de médailles. Triple championne du monde, l'Éthiopienne Genzebe Dibaba sera une nouvelle fois la femme à battre. Elle est alignée sur deux épreuves, le 1500 et le 3000 mètres. Un gros contingent ivoirien est présent à Birmingham. En tête, Marie-Josée Talou, récente vainqueur aux 60 mètres des Jeux d'Indoor à Glasgow. Chez les hommes, il faudra compter avec Wilfried Kofi, Ben Youssef Meïté et la nouvelle perle Arthur Cissé. Le Burkinabé Fabrice Zango lui espère un podium après avoir battu le record d'Afrique du triple saut, vieux de 36 ans, le mois dernier avec un bond à 17,23 m. On gardera aussi un œil sur Franck Elamba, le lanceur de poids du Congo, sans oublier le Sud-Africain Louvo Mayonga, médaille olympique au saut en longueur à Rio. Les championnats du monde d'athlétisme, on le rappelle, en salle, se déroulent du 1er au 4 mars.
Par ailleurs, Cédric Bakambu rejoint officiellement le Beijing.
Tout à fait, Morgan. Le club chinois a attendu la toute fin du marché des transferts en Chine pour se résoudre à ajouter 37 à 40 millions d'euros supplémentaires à ceux déjà versés pour acheter le contrat de Cédric Bakambu à Villarreal. En Chine, en effet, les clubs doivent s'acquitter d'une sorte d'amende de 100% sur les transferts de joueurs étrangers dépassant 5,7 millions d'euros. Résultat, un montant total de 74 à 80 millions d'euros déboursés pour l'attaquant congolais de 26 ans, qui devient théoriquement le footballeur africain le plus cher de l'histoire. Et d'après la presse chinoise, Bakambu a signé pour 4 ans pour un salaire annuel brut estimé à 18 millions d'euros.
Voilà, ça fait rêver. 3 mois de convalescence pour Neymar.
Neymar Junior est arrivé au Brésil tôt ce matin pour se faire opérer samedi du pied droit. Il lui faudra jusqu'à 3 mois de récupération d'après le médecin de la Seleção, Rodrigo Lasma, qui se chargera lui-même de l'opération. Le docteur Lasma estime entre 2 mois et demi et 3 mois le temps de récupération de la star brésilienne. Au mieux, Neymar reviendrait donc 1 mois avant le mondial qui débute le 14 juin. Ce n'est pas une simple fissure comme le présentait le PSG, c'est une fracture d'un os important au milieu du pied, a expliqué le médecin. Le Brésilien, on le rappelle, s'est blessé dimanche lors du Classico remporté par le PSG face à Marseille, 3-0 en championnat.
Merci Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, place au dossier du jour. Vive tension à Gao dans le nord du Mali. Les jeunes sont depuis hier dans la rue pour manifester contre la communauté arabe qu'ils accusent d'avoir tué un élément de la garde nationale. Des coups de feu ont été entendus dans la ville totalement paralysée. Les commerces, banques et les écoles sont restés fermés. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Tout a commencé hier soir après que Abdou Touré, un élément de la garde nationale, soit abattu par balle près de la mosquée Kouette au quartier Château. Les jeunes ont brûlé des pneus en signe de protestation sur les artères principales de la ville. Des coups de feu ont retenti peu après et 4 blessés par balle ont été évacués sur l'hôpital. Le rendez-vous est donné pour ce matin à la place de l'Indépendance. Et là, ça recommence. Les chefs coutumiers Songoï Arma et le représentant des Arabes tentent de calmer le jeu. Mohamed Ibrahim Touré, chef arabe.
Gao est notre terre natale. Nous ne devons pas y mettre le feu. N'écoutons pas les mauvaises langues. Chacun de nous a le devoir de protéger notre camp. Faisons donc attention pour que la paix et la stabilité puissent régner en vous. Calmez-vous et acceptons de dialoguer pour trouver la solution à cette crise. Ce qui s'est passé est très mal, mais il faut le gérer avec intelligence et conscience.
Les jeunes, après avoir écouté les chefs coutumiers, prennent la direction d'Aljana Banja à la place Jiguinchor. Quelques instants après, on entend des coups de feu. 5 personnes sont touchées par balles et évacuées aussi à l'hôpital. Les groupes armés d'autodéfense entrent en jeu. Ils arrêtent des hommes armés à bord de 2 véhicules et les conduisent à la gendarmerie.
On est en train d'essayer de calmer les jeunes. Parce que la jeunesse est énervée. La jeunesse est trop fâchée. Donc il y a des gens que nous-mêmes on a arrêtés.
Vous avez arrêté où ça?
Au 4e quartier. Des gens qui ont tiré sur la population qu'on a arrêtés et on les amène à la gendarmerie.
Les jeunes très en colère se rassemblent devant la gendarmerie et réclament le corps de ces hommes.
Les dénommés arabes ethnies ont eu des morts et ils ont dit on va faire justice. Après sous ça, ils sont partis tuer des gens en douce. Et ça, on n'est pas d'accord. C'est pour cela aujourd'hui on est au dehors.
Vous réclamez quoi?
Nous on réclame que justice soit faite. Sinon, on nous fait aussi notre justice. On peut aussi faire ça.
La ville est paralysée, le commerce, les banques, les écoles et les services publics sont restés fermés toute la journée. Il faut rappeler que tout est parti après que le corps d'un des 2 Arabes enlevés dans la commune de Traboui soit retrouvé sur les berges du fleuve Niger dans le village de Barissadji, commune de Sony Alibert. En tout cas, la tension est très vive à Gao entre les 2 communautés, Soré et Arabe. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur le lac Tchad qui lie le Sahel et l'Afrique centrale. Une conférence internationale se tient cette semaine à Abuja pour sauver cette région dévastée par le changement climatique, la famine et les conflits. Le lac Tchad est-il en danger de disparition? Où en est-on avec le méga projet de remplir le lac? L'enjeu sécuritaire est-il en train de corser la grave crise humanitaire qui touche la région? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h.
Le président turc continue sa tournée en Afrique où Ankara s'efforce depuis plusieurs années d'accroître son influence. À Nouakchott, Recep Tayyip Erdogan a annoncé une contribution de la Turquie de 5 millions de dollars pour financer le G5 Sahel. Cette visite du président turc met l'accent sur le renforcement des partenariats économiques. Comment cette visite est-elle perçue au Sénégal où s'est rendu Recep Tayyip Erdogan? John Lindon a posé la question au docteur Abdoulo, directeur pour l'Afrique du cabinet Access Partnership.
Globalement, comme la visite de beaucoup de chefs d'État de pays émergents ou développés, la visite portera essentiellement sur des questions économiques et de partenariat, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a découvert du pétrole et du gaz en grande quantité dans son sous-sol ces dernières années, disons les 5 dernières années, et que c'est un peu la course aux investissements et aux partenariats pour beaucoup de pays, en tête desquels se trouvent la France, le Maroc et maintenant la Turquie, parce que la Turquie est impliquée à terminer en tout cas le chantier de l'aéroport Blaise Gagne, le nouvel aéroport flambant neuf dans la périphérie de Dakar. C'est la Turquie qui a fini les travaux après que les Saoudiens aient traîné pendant une dizaine d'années pour la finalisation. Donc ça, c'est un acquis très solide pour les Turcs qui ont pu montrer qu'ils étaient efficaces et rapides dans l'exécution de chantiers de grande envergure. Ils vont s'intéresser très clairement au pétrole et au gaz découvert au Sénégal. On peut également considérer que dans le secteur du tourisme, les deux pays pensent à élargir leurs relations. On peut également penser à un partenariat entre la nouvelle compagnie Air Sénégal qui va démarrer d'ici quelques mois, entre avant juillet, et peut-être Turkish Airlines. Maintenant, au-delà de ces considérations économiques évidentes, qui sont prioritaires hein, pour tous les États maintenant, il y aura certainement la question du dossier... La question des écoles, il y a vous, Céline. Ceci, vraiment, derrière nous, c'est secondaire.
À propos, justement, vous parliez d'économie tout à l'heure. Qu'est-ce que la Turquie apporte de plus que la France ou les États-Unis?
Alors, la Turquie est un peu dans le sillage de ce que fait la Chine. La Turquie étant elle-même, entre guillemets, victime de ce qu'on appelle la tyrannie des droits de l'homme. La Turquie n'est pas liée par des engagements de cet ordre-là en disant le partenariat sera conditionné.
Est-ce qu'au niveau de la population, on a des retombées de tous ces partenariats économiques que le Sénégal a avec des États comme la Turquie?
Si vous voulez, je pense que c'est en termes de gain de temps, en termes de coûts, que peut-être les populations vont voir les retombées, pas dans le panier de la ménagère, pour parler trivialement. C'est en termes de construction de logements sociaux, parce que vous savez qu'il y a une nouvelle cité qui est en train d'être construite à la périphérie de Dakar, qui s'appelle Diamniadio. C'est là où se trouve, si vous voulez, le nouvel aéroport. Il y a toute une nouvelle ville administrative qui se construit là-bas, avec beaucoup de logements pour les fonctionnaires, une cité ministérielle, un nouveau stade flambant neuf, etc. Pas mal de choses.
Docteur Abdoulo, directeur pour l'Afrique du cabinet Access Partnership.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer À votre avis, ce jeudi à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Des entreprises suédoises imposent la pratique du sport aux employés. Des entreprises japonaises encouragent la pratique d'exercice et la sieste. Pensez-vous que le sport doit être obligatoire au travail et la sieste, comme au Japon? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Éviter la disparition du lac Tchad. L'urgence est bien réelle. C'est ce qui ressort d'une conférence organisée ces trois derniers jours par le gouvernement nigérian et l'UNESCO. Le sommet a réuni des dizaines d'experts et des diplomates à Abuja. Il a surtout été question du méga projet Transaqua. Ce projet pharaonique bénéficie du soutien chinois. Il s'agit de creuser un canal de 2600 km depuis la République démocratique du Congo, passant par la Centrafrique jusqu'au lac Tchad. Il pourrait coûter jusqu'à 14 milliards de dollars et suscite de fortes résistances à Kinshasa. Pour faire le point sur la conférence, Jacques Aristide a joint notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Ce qui ressort surtout de cette conférence, c'est pour les participants, il n'y a pas d'autre solution pour sauver le lac Tchad que de faire le transfert d'eau entre les différents bassins, ce qui veut dire que l'eau doit venir de l'extérieur. Et donc, les représentants de 30 pays qui ont pris part à ce sommet disent que le transfert d'eau entre les bassins n'est pas une option, mais plutôt une nécessité.
Le méga projet Transaqua imaginé dans les années 80 et qui consiste justement à remplir le lac Tchad est revenu sur le tapis. Mais y a-t-il espoir que cette fois-ci le projet verra le jour?
Il y a l'espoir parce que cette fois-ci, là, à ce niveau, ils ont proposé la création d'un fonds de développement africain infrastructurel donc qui sera doté de 50 milliards pour le coût d'envoi de ce projet. Et donc, ce qui veut dire que si ça se passe comme c'est prévu, dans les 10 prochaines années, on pourra enfin voir mettre ce canal en Afrique qui doit donc relier le bassin du Congo au bassin du Tchad et ouvrir tout un corridor de développement agro-industriel de 50 km carrés de développement pour l'irrigation, pour l'agriculture et aussi pour aider à apaiser les tensions dans cette région qui est devenue aujourd'hui un foyer de conflit.
A-t-on évoqué lors de ce sommet les réactions négatives en RD Congo qui doit donner son accord à ce projet?
le sommet n'a pas discuté de point de vue de la République du Congo. Pourtant, il y a eu un représentant du ministère de l'Environnement de la RDC qui a fait une présentation d'ailleurs spectaculaire durant ce sommet, qui a parlé d'autres sommets, mais n'a pas vraiment rejeté l'idée du transfert de cette eau vers le lac Tchad.
Le correspondant de VOA Afrique, Gilbert Tamba, est en ligne de la capitale nigériane. Sachez également que Jacques Aristide reviendra sur le lac Tchad tout à l'heure à 19h temps universel dans Washington Forum.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, la 90e édition des Oscars aura lieu dimanche 4 mars à Hollywood. Et c'est une cérémonie de récompense grandiose qui se peaufine présentement dans le temple du cinéma mondial. Quelle est l'ambiance qui prévaut à Hollywood à 3 jours du clou des festivités de récompense des meilleurs films, réalisateurs, producteurs et acteurs? Yacouba Ouedraogo a joint sur place Arzuma Compaoré, l'envoyé spécial de VOA Afrique à Hollywood.
Ici même à Hollywood, c'est l'ambiance de beaucoup d'excitation. Les gens sont venus du monde entier pour célébrer les meilleurs films de 2017. Il y a pas mal de presse étrangère qui est là aussi. Hier, par exemple, il y avait la mise en place du fameux tapis rouge qui a été déroulé en présence de beaucoup de médias. Beaucoup de caméramans étaient là pour immortaliser ce moment qui est devenu en fait un moment important dans la préparation, en tout cas, de la cérémonie des Oscars. Au total, nous avons 341 longs métrages qui ont été soumis aux membres votants de l'Académie des arts et des sciences du cinéma. 92 pays ont soumis des films dans la catégorie films en langue étrangère. La compétition en films en langue étrangère est la seule compétition où c'est le pays des films qui soumet le film aux Oscars. Dans toutes les autres catégories, ce sont les réalisateurs eux-mêmes ou les producteurs eux-mêmes qui soumettent leurs films de façon indépendante.
Est-ce qu'il y a des films africains en compétition?
Il n'y a pas de film africain en tant que tel. Le seul film qui a une équipe africaine, plus ou moins une école de films africaine au Kenya qui a participé, s'appelle Watu Wote, Nous Tous en français, qui est en fait un film produit par une école de films allemande qui est partie au Kenya pour tourner un film sur une attaque de Al-Shabaab sur un bus en 2015. Et donc le film, c'est un court-métrage qui a de fortes chances en tout cas de remporter l'Oscar en court-métrage cette année.
Qui sont les favoris? Est-ce qu'il y a des noms ou des films qui circulent?
Le grand favori en tout cas, c'est The Shape of Water, La Forme de l'eau, de Guillermo del Toro, qui a déjà récolté 13 nominations et qui pourrait très bien remporter le fameux trophée du meilleur film de 2017. Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, peut créer la surprise à côté de Get Out, de Jordan Peele, et aussi The Darkest Hour. Il y a beaucoup de films en tout cas en pole position, mais ça va être aux membres votants de l'Académie de pouvoir décider.
Que représentent les Oscars pour les nominés?
Les Oscars représentent presque tout. C'est le summum, c'est la crème de la crème du cinéma. C'est pour ça que tout le monde vient pour voir qui va pouvoir remporter les Oscars. Les Oscars vont être retransmis en direct dans près de 225 pays. C'est des milliards de personnes qui vont voir les films. Donc c'est un boost inévitable pour la carrière de ces films là, mais pas seulement, mais aussi pour les acteurs et les producteurs et tous les cinéastes en tout cas qui participent à ces films. C'est un changement dans le niveau aussi de carrière, au niveau des cachets de façon très claire. Les Oscars aujourd'hui représentent pour tous les cinéastes l'objectif suprême. Après les Oscars, c'est un changement total au niveau de la carrière du film et aussi des acteurs nominés.
Voilà, c'était Arzuma Compaoré qui est à Hollywood. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin. À la console, Nachouane Calais. Présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet VOA Afrique. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.